Et nous continuons nos méditations toujours dans le sermon sur la montagne. Nous avançons à petits pas. Et donc nous sommes en Matthieu, chapitre 6. Et aujourd'hui nous allons lire à partir du verset 16. Alors on aurait pu passer au verset 19. Mais on va quand même lire ce passage sur le jeûne. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait, tout détruit, littéralement, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Ah oui. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà eu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Seigneur, encore nous te demandons d'ouvrir nos cœurs, nos intelligences, nos esprits, pour que nous puissions vraiment comprendre ta parole et l'appliquer à nos cœurs par ton Esprit Saint. Amen. Quelle place, voilà la bonne question, quand on lit ce genre de passage, on dit, oh, ça ne me concerne pas, je ne jeûne pas, je n'aime pas jeûner, je n'ai jamais jeûné. Pourquoi lire ça? Et ça ne s'adresse pas à nous, les temps ont changé, enfin, vous voyez tout ce qu'on peut en dire. Et on peut se dire, mais quelle place, donc, on va quand même se poser la question et on va voir que ça nous rejoint quand même dans notre vie. Quelle place devons-nous faire aux jeunes dans notre vie spirituelle, dans notre piété? Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord définir ce qu'est le jeûne. Alors, ce qu'est le jeûne? Donc, on peut donner cette définition. Le jeûne, c'est l'abstention totale de nourriture pendant une durée généralement courte. Il y en a qui jeûnent un repas, il y en a qui jeûnent trois journées, mais guère plus en général. Exceptionnellement, il y a des jeûnes de 40 jours qui peuvent aller jusqu'à 40 jours. C'est l'extrême limite des capacités humaines. On voit ça dans la Bible pour Moïse et pour Jésus. Et on peut dire que le jeûne s'accompagne très rarement, puisque c'est vraiment mortel, très rarement de la renonciation à la boisson. Voilà pour la définition. Alors quand on définit ainsi le jeûne, on va dire ça n'a rien de religieux. On peut jeûner à titre diététique, on peut jeûner à titre médical. Alors, si on ajoute une dimension religieuse, comme dans certaines religions, si on ajoute son orientation vers Dieu, on a alors la définition d'une pratique religieuse qui se trouve dans certaines religions, donc, mais qui n'est pas spécifiquement chrétienne. Dans de nombreuses religions, on jeûne avec des prières. Alors, qu'est-ce qui va caractériser le jeûne biblique, d'après la Bible? Qu'est-ce qui lui donne une portée spirituelle? Alors, ce n'est pas son association à la prière, pas uniquement, parce qu'on prie aussi dans d'autres religions, mais c'est surtout son aspect volontaire. C'est une volonté personnelle, donc ça vient de nous, ce n'est pas imposé, et c'est surtout le sens de sa motivation qui est importante. Pourquoi on jeûne? Voilà ce que les orientations déjà de la Bible. Alors, ce que la Bible en dit, on peut voir l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça nous rafraîchit les esprits. Alors, dans la Bible entière, on trouve plus de 70 mentions du jeûne dans la Bible entière, avec une très grande variété de formes et de circonstances pour sa pratique. Donc déjà, il y a de la variété et il y a beaucoup de sens différents. Alors, l'Ancien Testament mentionne d'abord les jeûnes réguliers. Il y avait des jeûnes qui étaient liés à l'observation de la loi, avec tout le système de l'Ancien Testament. Par exemple, en Zacharie 8, 9, le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième, le jeûne du septième mois, le jeûne du dixième mois deviendront pour la maison de Juda des jours de gaieté et de joie. Donc, c'est qu'on jeûnait ces jours-là, ces mois-là. Alors, c'est ces jours-là, et régulièrement au début de ces mois-là. Et puis, il y avait des jeûnes publics occasionnels, pour des grandes occasions. Par exemple, on voit à la suite de la destruction de la tribu de Benjamin dans le livre des Juges, tribu qui avait gravement péché contre Dieu, il y a eu un jeûne. On voit aussi, et il est dit que tous les Israélites montèrent à Bethel, Juge 20, verset 28, ils pleurèrent, restèrent là devant l'Éternel, ils jeûnèrent. En ce jour-là, jusqu'au soir, ils offrirent des holocaustes, des sacrifices de communion devant l'Éternel. Donc à Bethel, le lieu où Dieu s'était révélé. Puis il y a des jeûnes, donc ça c'est les jeûnes publics. Mais il y a des jeûnes privés. On voit quand Néhémie a vu que la désolation de Jérusalem, on avait vu ça en Néhémie 1:4. Il a prié Dieu, mais il a accompagné sa prière de jeûne. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais pendant plusieurs jours. Je pris le deuil, donc avec le sac et la cendre. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Alors, voilà les grandes occasions, certaines circonstances particulières. Et donc, on peut dire qu'en d'autres occasions, il est associé aussi parfois à une demande de guérison, de protection, de victoire, de conseil. Dans tous les cas, il est l'expression d'une dépendance profonde à l'égard de Dieu. Il est l'attente confiante de son intervention. Donc c'est l'intervention, c'est un aveu de faiblesse devant Dieu. Et le Nouveau Testament fait aussi mention du jeûne, quoique de façon plus discrète. Alors il y a notre texte d'aujourd'hui. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Donc ça veut dire qu'il y avait, dans la pratique juive de l'époque de Jésus, une place importante accordée donc aux jeunes à cette époque. Alors, l'Église primitive, l'enseignement des apôtres, quel est-il ? Eh bien, on voit que dans la première Église, dans l'Église primitive, on va s'inscrire dans la continuité. L'Église primitive s'inscrira dans cette ligne et aura recours à cette pratique à des circonstances particulières, mais assez rares, finalement, dans le Nouveau Testament. On a la mention, surtout, d'Actes 13, 1-4. Quand ils vont envoyer des missionnaires pour la première mission, avec Paul, avec Barnabas, ils vont mettre à part ces serviteurs de Dieu en priant et en jeûnant. C'est l'église d'Antioche, donc. Mais le Nouveau Testament n'en fait pas pour autant un élément indispensable de la vie de la communauté chrétienne. En Actes 2, 42, vous connaissez sans doute ce verset, c'est pas mentionné. Il est dit que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mais rien d'autre. Et l'apôtre Paul ne recommandera jamais de façon explicite la pratique du jeûne dans ses épîtres. Par contre, il mentionnera souvent la nécessité de la prière et de la prière persévérante. Donc, ceci étant dit, ça nous remet déjà les choses un peu en ordre, ceci étant dit, l'Écriture nous met en garde contre la banalisation et la mauvaise utilisation du jeûne. Et donc, nous sommes en plein dans notre texte d'aujourd'hui. Alors, pourquoi ? Parce qu'il s'agit donc d'un acte de piété dans lequel notre corps est impliqué, on va dire. Et donc, la pratique du jeûne comporte donc quelques risques, au même titre que la prière ou que l'offrande que Jésus a citée juste avant dans ce chapitre 6. Et donc Jésus prend soin dans le sermon sur la montagne d'avertir ses auditeurs contre les tentations spécifiques liées aux actes extérieurs de la piété. Son souci est d'inviter le croyant à plus de sincérité, a plus d'authenticité. Il connaît le cœur humain et sait de quoi nous sommes faits. Personne n'avait besoin de l'enseigner à ce sujet, bien sûr. Et notre tentation, bien sûr, est grande dans ce domaine. Nous pouvons facilement décaler notre piété de notre cœur. Et ce qu'il exprime, donc, ce que nous exprimons par des gestes, doit être en accord réel avec notre cœur, avec ce que nous voulons vraiment. Et parfois, ce que nous exprimons est seulement en accord avec notre désir de paraître. Et donc Jésus fait ainsi écho au prophète de l'Ancien Testament, qui insistait sur le cœur plus que sur le rite extérieur. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Joël 2,13, qu'on retrouve dans plusieurs prophètes. Alors, il y a trois mauvais usages du jeûne. On pourrait repérer trois risques liés à l'aspect extérieur du jeûne. Tout d'abord, il y a le formalisme. Alors, le livre du prophète Ésaïe dénonce au chapitre 58, c'est le grand chapitre sur le jeûne, il dénonce l'attachement excessif du peuple à la forme au détriment de l'esprit qui doit y présider. Je lis les versets à partir du verset 4 du chapitre 58. Vous jeûnez, mais vous jeûnez pour vous disputer, pour vous quereller, pour vous frapper méchamment du poing. Est-ce là le jeûne que je préconise ? Un jour où l'homme doit s'humilier ? S'agit-il de courber la tête comme un jonc, de se coucher sur le sac et sur la cendre seulement ? Donc ça veut dire que les gens pratiquaient le jeûne à la lettre, vraiment dans les règles, mais ils se disputaient en famille en même temps. Donc le jeûne mis en cause ici paraît rituellement correct, mais est véritablement scandaleux de ce point de vue. L'attention de Dieu exprimée par le geste est démentie par l'injustice manifestée à l'égard du prochain et du prochain le plus proche, même dans la famille. Il y a donc dans le formalisme une erreur de stratégie, on va dire. C'est la première erreur qu'on peut repérer. Le croyant, c'est-à-dire que le croyant use son énergie à se conformer aux détails extérieurs pour éviter de se mettre en cause sur le plan intérieur. Ça, c'est un mécanisme religieux, très courant, et dont on n'est pas à l'abri et que Jésus dénonce. Donc, il y a le formalisme. Et puis, il y a un autre danger, l'ostentation. Bon, ce n'est pas un mot qu'on emploie tous les jours, mais donc Jésus s'en prend à la publicité que nous pouvons mettre en œuvre autour de nos actes de piété pour nous faire valoir. Les hypocrites se rendent le visage tout défait, tout détruit, littéralement, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Pour montrer, ils savent montrer. Et donc cette attitude correspond au désir de paraître, d'être bien vu des hommes. Alors, il y a dans l'ostentation une erreur de destinataire. Le croyant privilégie un rapport de domination ou du moins de comparaison avec les autres, au lieu de rester dans un rapport avec Dieu, dans un rapport de soumission avec Dieu. Donc, il se trompe de destinataire. Alors, ça peut revêtir au moins deux formes, des formes un peu subtiles, parce qu'on est très subtil dans le péché. Et donc, ça peut revêtir des formes plus ou moins subtiles. En tout cas, d'abord, le mimétisme. C'est-à-dire, le mimétisme est une de ces formes-là. Ça veut dire que nous jeûnons simplement pour ne pas faire moins que les autres. Oh, les autres le font, on ne peut pas faire moins. On les imite pour être dans la masse, dans le mouvement. Voilà. Mais c'est les autres qui comptent, c'est pas Dieu dans ce cas-là. Donc, erreur de destinataire. Une autre forme subtile, c'est la revendication. C'est-à-dire, nous jeûnons pour asseoir notre légitimité dans la communauté. Je suis le meilleur, je suis le plus spirituel, je suis le chef, donc je jeûne et vous êtes que des minables. Non, vous devez suivre. Donc, il y a là aussi une mauvaise considération, c'est les autres qui comptent et c'est pas Dieu. Donc, erreur de destinataire. Alors, il y a un troisième danger, c'est la superstition. Alors, plus généralement, l'Écriture combat donc les conceptions païennes, quasi magiques, des actes de piété. C'est de la magie presque, c'est-à-dire dans le paganisme, si on jeûne, on va pousser la divinité à faire ce qu'on veut. Et c'est automatique, quasi automatique. Alors, le jeûne est une manifestation de cet esprit païen qui ressurgit dans notre vie chrétienne. Le jeûne n'est en aucune manière une façon de contraindre Dieu, dit la Bible. Elle n'est une façon de contraindre Dieu à exaucer notre prière. Le texte de Matthieu, donc 17, 21, nous fait parfois un peu a fait parfois un peu couler d'encre à ce domaine. Hein. Et Jésus a ajouté, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Hein. Alors on entend ça, hein. Certaines personnes revendiquent le jeûne à cet égard, avec ce verset. Hein. C'est Jésus qui guérit, qui reproche le manque de foi de ses apôtres après la transfiguration, les apôtres qui sont restés dans la vallée. Hein. Et il demande, mais pourquoi n'avons-nous rien pu faire ? Et Jésus répond, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors c'est souvent invoqué comme un moyen sûr d'obtenir la victoire souhaitée dans des actions similaires. Il faut prier et jeûner et on aura la guérison et tout ce qu'on veut. Alors deux arguments permettent d'écarter cette compréhension. Cette compréhension quasi magique du jeûne. Tout d'abord, ce texte est absent des meilleurs manuscrits du Nouveau Testament. Et dans vos Bibles. Et donc son authenticité est donc sujette à caution. C'est pourquoi dans vos Bibles, dans la version Colombe, par exemple, on trouve ce texte en crochet, entre deux crochets dans la Bible, avec une petite note. Donc c'est un texte qui a sans doute été ajouté au 4e, 5e siècle. C'est valable pour deux, trois textes, guère plus, mais ce texte en fait partie. Donc il est sujet à caution. Et deuxièmement, dans le contexte, ce n'est pas du tout ça que dit Jésus. Dans le contexte de Matthieu 17, on met l'accent sur la foi. Et c'est l'absence de foi qui est en cause dans l'échec des disciples. Pas autre chose. Ce n'est pas l'absence de jeûne, c'est l'absence de foi. Alors, le jeûne n'est en aucune manière une façon de manipuler Dieu pour qu'il dise oui à notre volonté. Ce n'est pas non plus un exercice de recherche d'un état d'extase pour obtenir des sensationnelles révélations divines, non plus. Il y a dans la superstition, qui peut prendre toutes ses formes, il y a une erreur de compréhension de qui est Dieu et du salut. Une erreur de compréhension majeure. Le croyant cherche ailleurs qu'en Dieu et son amour le moyen de son salut. Il s'efforce d'être un acteur méritant de son salut. Il s'efforce de maîtriser le salut et l'action de Dieu. Et il essaie de maîtriser le Dieu vivant, finalement. Et donc cette remise en cause de la grâce divine et de la personne de Dieu est à la racine de tous les mauvais usages du jeûne déjà cité. Et ça revient en fait à mépriser la gloire de celui qui nous a donné en son Fils Jésus-Christ, qui nous a tout donné en son Fils Jésus-Christ. Alors, ceci dit, on va dire, ouais, jusqu'à présent, on n'a pas tenu compte de ma remarque, c'est-à-dire que moi, je ne jeûne pas. Donc, ce texte ne me concerne pas, je suis à l'abri de tous ces problèmes. Non, on n'est pas à l'abri, puisque ce que Jésus dit ici est valable pour toutes sortes de piété qui peut être mal orientée. Je ne jeûne pas, mais si on regarde de près, eh bien, il y a d'autres observances religieuses qu'on s'est imposées et qui peuvent être aussi nocives et comporter autant de dangers que le jeûne mal compris. Par exemple, j'en donne un autre exemple, vous allez en trouver d'autres dans votre vie sans doute. Par exemple, la pratique d'un journal intime. Ça, c'est une façon assez moderne d'évaluer sa piété. Vous savez, on recommande ça dans certains livres au départ, donc ça peut aider quelqu'un. Et moi, je l'ai souvent recommandé aux nouveaux baptisés, aux jeunes chrétiens, d'avoir un journal intime où ils peuvent au moins marquer chaque jour deux, trois choses. Et c'est plus ou moins développé, mais ça peut nous aider, ce journal intime, à la repentance, au retour sur soi, à la piété, à la sanctification aussi. C'est une aide à la sanctification. Mais on peut, là aussi, glisser dans un piège. On peut regarder, par exemple, de haut, ceux qui ne font pas la même chose que nous. On peut, là aussi, se sentir de meilleur, se féliciter d'être de meilleurs chrétiens que ceux-là, que tous ceux qu'on vient de citer, qui ne suivent pas le même chemin dans ce domaine. on peut finir par penser que l'acte lui-même de mettre sur papier nos pensées est un moyen de grâce par lui-même, même si on ne s'approche pas de Dieu. Et c'est un acte par lequel, sans lequel, eh bien, on ne peut pas plaire à Dieu ni vivre dans la sainteté. Donc on voit que tout acte de piété, à cause du péché qui est en nous, peut facilement dévier. Et quand on s'en rend compte, il n'y a qu'une chose à faire. C'est le moment de mettre fin à cette pratique. Parce que ça ne fera qu'empirer. Et il faut mieux changer de pratique. Et avoir trouvé un moyen, dans d'autres moyens, l'aide dont on a besoin dans sa piété, ou pour manifester sa piété. Alors, l'essentiel du temps de jeûne. On a dit tout ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est bon ? Eh bien, l'essentiel du temps de jeûne, c'est la disponibilité pour la prière. Les mauvais usages d'une chose ne nous conduisent pas à y renoncer, forcément, mais à la pratiquer de façon plus équilibrée. Les risques liés aux actes extérieurs de la piété ne doivent pas nous conduire à ne faire de la foi qu'une affaire intérieure, intime. Ça serait un autre excès. Le Seigneur nous engage à exprimer aussi par nos corps ce à quoi nos cœurs disent oui. Et donc la pratique du jeûne peut être une expression de notre disponibilité devant Dieu. Elle est une façon de répondre à son amour, de montrer que nous nous attendons à lui, que nous attendons tout de lui, que nous dépendons de lui. Par le jeûne, nous nous rendons disponibles d'abord, nous rendons du temps à Dieu, nous donnons du temps à Dieu. Il ne faut pas oublier, j'aime rappeler ça, qu'à l'époque de Jésus, dans l'Ancien Testament aussi, on passait 40% de sa journée à préparer le repas. Peut-être un petit peu moins, mais pas beaucoup plus. Chercher le bois, chercher l'eau, chauffer, voilà, tout ça, ça prenait une grande partie de la journée. Et donc le fait de jeûner, de ne pas prendre ce temps pour préparer le repas, mais ça donnait du temps à la prière, à la recherche de Dieu. Aujourd'hui, préparer un repas, c'est mettre un sachet dans de l'eau. C'est 3 minutes. Donc ce n'est pas sur ce temps de repas, ce n'est pas sur la préparation du repas qu'il faut économiser du temps, c'est sur d'autres choses. On y reviendra juste après. Alors, pour le jeûne, nous nous rendons disponibles en donnant du temps à Dieu. Nous nous rendons disponibles pourquoi ? Mais pour 4 choses. D'abord, pour donner du temps et à Dieu, et pas seulement pour ce qui nous fait immédiatement et assez égoïstement plaisir. Ensuite, pour manifester notre dépendance à l'égard de Dieu. Par nos corps, nous disons que nous comptons sur lui, comme j'ai dit, et même quand la satisfaction du besoin alimentaire de la nourriture n'est pas là, nous continuons à compter sur lui. Voilà ce que nous disons à Dieu à cet égard. Aussi, pour marquer notre démarche d'humiliation et de repentance. Le jeûne est public ou privé, le témoignage extérieur d'une repentance, d'une tristesse par rapport à notre vie, d'une affliction intérieure. Et donc, c'est une manière d'exprimer à Dieu notre vrai déplaisir de nous-mêmes et de notre péché, avec une vraie humilité procédant d'une authentique crainte de Dieu. Et puis, enfin, pour faire preuve de solidarité aussi. Nous nous rendons disponibles pour faire preuve de solidarité dans un monde d'injustice criante à l'égard de ceux qui sont dépourvus de tant de choses. Et le jeûne peut aussi être le moyen de donner à une œuvre en faveur de ceux qui ont faim. Alors, nous pouvons donc réfléchir aussi aux jeunes qui nous seront utiles aujourd'hui. Tout ça, c'est bon, on va dire, pour hier, mais quelles applications faire avec notre vie d'aujourd'hui ? Quels jeunes faisons-nous aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, en tenant compte de la vie d'aujourd'hui ? Alors, il faut réfléchir. Quels jeunes seraient utiles ? Quelle façon ai-je de gagner du temps dans ma vie pour donner du temps à Dieu ? Eh bien, on pourrait dire qu'il faut jeûner d'ordinateur, par exemple. Là, c'est pas en 3 minutes, un ordinateur. Hein. Ça prend plusieurs heures par jour. Hein. Ou jeûner de téléphone portable. Alors là. Ou jeûner d'Internet. Ou jeûner de réseaux sociaux. Hein. Ou jeûner de voiture, hein, pour marcher, réfléchir dans la nature. Enfin, il y a tellement de choses qui pourraient trouver des applications pratiques dans nos vies. Des plages de temps tellement importantes qu'on n'arrive même plus à maîtriser et qu'on pourrait de temps en temps donner à Dieu, hein, pour chercher Dieu. Alors, le jeûne auquel nous sommes invités nous libère de tout ce qui nous empêche de vivre dans la présence de Dieu, et cela ne concerne donc pas seulement les nourritures terrestres. Voilà une bonne conclusion. Alors, la conclusion définitive, ça serait que ce matin, si nous redécouvrons, chacun pour notre part, en communauté ou pour nous-mêmes, donc cet aspect de la piété, faisons-le en respectant la liberté de notre sœur, de notre frère à côté de nous. Ne cherchons pas à faire comme eux, ne cherchons pas à leur imposer ce qu'on fait ou à se croire supérieur parce qu'on le fait. Et puis souvenons-nous que la prière accompagnée de jeûne n'est pas un moyen d'obtenir ce que nous voulons. C'est plutôt un moyen de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Il faut l'imprimer profondément, il faut l'enfoncer dans notre tête profondément cette idée. On ne veut pas changer Dieu, mais changer soi-même. Changer d'état d'esprit, hein, pour se mettre en meilleur lien avec Dieu, hein, et avoir les pensées de Dieu. Hein. Et surtout, donc, rappelons-nous que quand nous distribuerions tous nos biens, voyez où je veux venir, pour la nourriture des pauvres, quand nous livrerions même notre corps pour être brûlés, si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. 1 Corinthiens 13, 3. Amen.